Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que c'est une figure importante, l'instituteur?
En fait, la plupart des instituteurs qui ont contribué au bulletin de l'enseignement NAOEF sur lequel on a travaillé ont été des figures politiques importantes des luttes nationalistes de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que vous pouvez donner quelques noms?
On peut donner l'exemple de Boubou Hama au Niger, Philly Dabo Sissoko au Soudan.
Et quantité d'autres, comme notamment sénégalais, comme Alioune Diop, comme Amadou Dia, etc., des figures qui ont été connues grâce à la revue Présence africaine dans les années 50, mais qui ont eu une première vie textuelle avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, quand ils étaient de jeunes instituteurs.
Et quand on lit leur production donc dans ce bulletin, qu'est-ce qu'on y découvre?
Que le cadre est très étroit dans lequel ils doivent s'inscrire et que pour autant ils arrivent à s'exprimer, à réhabiliter les sociétés africaines. Bon, il y a une large gamme de positionnements. Tous ne sont pas dans un positionnement, disons, proto-nationaliste, mais néanmoins, il y a une réelle volonté de faire connaître et de mieux connaître les sociétés africaines.
Et l'historiographie généralement date plutôt à la Seconde Guerre mondiale, disons l'émergence d'un discours nationaliste. L'intérêt pour nous d'aller dans la période pré-Seconde Guerre mondiale, c'était de montrer que même dans le cadre hyper contrôlé des productions ethnographiques, historiques, dans le cadre scolaire, on constate déjà des dissonances parmi ces instituteurs par rapport au discours officiel qu'ils étaient censés relayer.
L'autorité coloniale avait quand même un contrôle, j'imagine.
Bien sûr, il y avait donc bien sûr déjà un contrôle en amont à travers les plans imposés pour ce type d'exercice. Il y avait aussi pour les travaux qui étaient notés un contrôle en aval avec la correction, la note tout simplement. Et pour ce qui est des textes publiés dans le bulletin, bien sûr, il y avait un comité de rédaction qui sélectionnait les textes à publier. Et là, on a pu comparer en fait quelques manuscrits qui ont été envoyés à la revue par les instituteurs africains et les textes publiés et justement voir un peu le travail de réécriture qui s'opère. Dans beaucoup de cas, la réécriture allait au-delà de la simple amélioration éditoriale d'un texte pour des fois avoir des coupes quand les instituteurs étaient jugés trop critiques, non seulement par rapport à, éventuellement au projet des autorités coloniales, mais aussi trop critiques par rapport à des figures qui étaient les alliés de l'administration coloniale, comme les chefs de canton par exemple, qui étaient souvent dénoncés en termes virulents par les instituteurs, et qui cette critique n'était pas autorisée dans le bulletin parce que c'était considéré comme finalement une critique aussi indirecte de l'ordre colonial qui était arrimé à ces chefs de canton.
Quelle était la perception que la population avait de ces instituteurs?
Alors, quand on regarde la perception que les instituteurs ont, que les populations ont d'eux, puisqu'il y a eu plusieurs enquêtes menées par l'administration pour savoir comment les instituteurs voyaient leur métier, on constate qu'ils constatent un peu parfois, même souvent, un divorce avec la population locale. Ils considèrent qu'ils sont moins bien traités que les auxiliaires de l'administration coloniale dans les services administratifs, parce qu'en fait, leurs conditions de vie sont assez faibles par rapport aux autres personnels de l'administration. Et donc, ils vivaient assez durement, les instituteurs, la façon dont les populations préféraient finalement s'en référer à l'adjoint du commandant, que eux, qui étaient un peu perçus comme voilà, des gens qui passaient la journée avec les enfants. Au début, les villageois ne comprenaient pas forcément ce que leur activité, à quoi elle servait, alors que l'interprète, lui, on voit tout de suite concrètement à quoi il peut servir pour les relations avec l'administration. Donc, finalement, pas toujours une bonne relation avec les populations.
Et puis, il y a un décalage important entre le moment où ils sortent de l'école normale, où ils ont un sentiment d'appartenance à une élite, et quand ils se retrouvent dans des écoles de brousse et qui sont censés se réintégrer, se réenraciner, ce qui a souvent été mal vécu par les instituteurs.
Vous diriez que les instituteurs sont des figures politiques.
Ils vont le devenir progressivement, ils ne le sont pas forcément au début, à part dans les quatre communes du Sénégal où là il y a une vie politique très ancienne. Ils vont le devenir progressivement, disons, au milieu des années 30, ils basculent assez vite dans une agitation politique pour certains, notamment d'abord grâce à l'activité syndicale, puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, là vraiment une entrée en politique des instituteurs, puisque le suffrage universel est étendu à l'ensemble des anciens sujets dans toute l'AOF.
Est-ce qu'on peut voir dans le bulletin un cheminement vers l'indépendance dans leur production?
Alors c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'écrits. Dans le bulletin, comme c'est étroitement contrôlé par l'administration, il y a peu d'extraits, de phrases, de paragraphes qui appellent ouvertement à une autonomie politique. C'est plutôt dans les devoirs de vacances des élèves qui sont notés, qui ne sont pas publiés, ou qui n'avaient pas en tout cas tous vocation à être publiés, où là, les élèves s'enhardissent petit à petit. Mais vraiment, le tournant, c'est les années 40. C'est en fait la parenthèse de Vichy qui, paradoxalement, a libéré un peu le discours en AOF pour ces instituteurs qui, finalement, s'enhardissent dans leur contestation de l'ordre colonial, puisque l'ordre colonial lui-même est malmené par le fait qu'il y a plusieurs régimes français qui se succèdent, puis ensuite l'ouverture politique à partir de 1944.
Vous savez comment ils faisaient classe concrètement? Est-ce qu'on a des
Alors, on a
traces?
utilisé les rapports d'inspection. On a utilisé les témoignages d'anciens élèves et d'anciens instituteurs. Et donc, on s'est rendu compte que les situations étaient en fait très variées. Tous n'ont pas adapté l'enseignement, y compris ceux qui faisaient des recherches, parce que l'enseignement était adapté, donc, comme je le disais, dans les programmes, mais aussi au niveau des structures, des diplômes. Et de ce fait, on considérait l'enseignement adapté comme un enseignement au rabais. Donc, certains instituteurs ont refusé de dispenser ce type d'enseignement.
C'est un peu le paradoxe de cet enseignement adapté en AOF. C'est l'idée que finalement, en voulant enraciner les élèves dans leur milieu local, ce qui peut être perçu comme quelque chose de positif, ne pas déraciner les élèves, était quand même au service d'une idéologie conservatrice de l'administration qui était de plus on les enracine dans leur terroir, moins on en fera des élites potentiellement assimilées, déracinées, qui contesteraient l'ordre colonial.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.